Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 13 mars. Manifestation des cyclistes hier devant la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite. Des anciens membres du groupe d'ultra-droite dissous Génération Identitaire sont accusés d'avoir reconstitué illégalement une nouvelle association. Ils ont été interpellés hier en France. Un événement qui ne devrait pas passer inaperçu en 2025, l'industrie magnifique. On en parle avec Caroline Sackmann dans cette édition. Attention, 25 cas de rougeole dans le Rhône et plus particulièrement dans les communes de l'Est lyonnais. Et puis l'ouverture de la billetterie pour le festival Les Nuits de Fourvière.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'association La Ville à Vélo et le collectif Valve ont manifesté hier matin devant la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite. Leur message, la ville est jugée peu accueillante pour les vélos qui ont besoin d'aménagements cyclables. Le scénario 2 de la voie lyonnaise 6 prévoit notamment dans la grande rue un sens unique nord-sud pour les autos et les bus et un couloir réservé bus-vélo dans le sens sud-nord. Les cyclistes souhaitent à minima que soit testée cette option qui a été mise de côté par la métropole de Lyon pour satisfaire la commune. Deux scénarios seront testés dès cet été pendant 6 mois. L'un prévoit le sens unique de la Grande Rue, mais seulement entre les rues du Perron et le pont d'Oullins. L'autre prévoit le maintien du double sens de la Grande Rue et un itinéraire vélo partagé, rue de la République et de la Camille, pour apaiser le quartier de la Bussière. 12 anciens membres du groupe d'ultra-droite dissous Génération Identitaire, accusés d'avoir reconstitué illégalement une nouvelle association, ont été interpellés en France hier. 4 autres personnes sont toujours recherchées. Génération Identitaire avait été dissous en mars 2021 par un décret en Conseil des ministres. Ces anciens cadres sont soupçonnés de s'être regroupés au sein d'une nouvelle association nommée Argos, dont les objectifs seraient proches de Génération Identitaire. Des perquisitions ont été notamment menées à Paris, Lyon et en Savoie.
Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
L'événement ne devrait pas passer inaperçu en 2025, l'industrie magnifique. Après 2 éditions à Strasbourg, Lyon va accueillir à son tour cette expérience plus qu'originale, un concept qui vise à promouvoir la création, l'art et le patrimoine industriel. En résumé, des entreprises mécènes qui choisissent l'un des artistes proposés. Objectif, créer une œuvre originale en s'inspirant de l'activité, des matériaux ou des valeurs de l'entreprise. L'occasion de faire entrer le public dans ces entreprises, et ce n'est pas tout, les œuvres monumentales seront exposées dans l'espace public pendant 11 jours en 2025. Nous avons rencontré Caroline Sackmann pour en savoir plus sur ce projet.
C'est un mouvement qui lie les entreprises, les artistes et les collectivités et qui s'aboutit par un acte concret qui est l'industrie magnifique, une exposition à une galerie à ciel ouvert pendant 11 jours dans la ville où on peut contempler des œuvres qui ont été créées par des binômes artistes et industriels.
Alors, il y a cette phase effectivement festival, mais il y a 2 autres phases aussi qui sont très importantes avant. Comment ça se déroule en fait sur ces 2 années?
Dès maintenant, on recrute les entreprises industrielles pour ensuite trouver des artistes en lien avec leur industrie, leurs matériaux, leurs valeurs. Ces binômes-là, on vise une 20aine de binômes pour l'instant, vont créer pendant environ 12 mois des œuvres uniques et monumentales dédiées à l'espace public. Donc il y a d'abord cette phase de création qui implique les matériaux de l'entreprise, les savoir-faire, mais aussi ses salariés. Ensuite, il y a la phase d'exposition dans l'espace public en juin 2025. Et ensuite, la troisième phase, on l'appelle le parcours des magnifiques. Les œuvres retournent dans leur lieu de fabrication, dans leur lieu de production, dans l'entreprise, où elles vont profiter pleinement aux salariés, aux clients, aux visiteurs de l'entreprise et peuvent être réactivées lors de la semaine de l'industrie ou les journées du patrimoine.
Qui sont les artistes qui sont susceptibles de participer à cet événement une fois que les lieux seront trouvés?
Alors, il y aura une grande diversité d'artistes. Tout d'abord, ça peut concerner tout type de matériaux, tout type de forme d'expression, que ce soit la sculpture, les installations, la photo, la vidéo et encore d'autres. Et puis les artistes, ça va des jeunes artistes locaux qui sortent d'une école d'art par exemple, jusqu'à quelques têtes affiches à renommée internationale.
L'idée, c'est quand même de faire des œuvres un petit peu monumentales, c'est de que justement l'artiste soit bien présent dans l'entreprise, qu'on puisse le voir, le visiter, voir comment il travaille.
Tout à fait. Pendant cette phase de création, il y a plusieurs moments de médiation. Pendant que l'artiste travaille en entreprise, on va inviter des élèves, des collégiens ou des lycéens, mais également les riverains ou des demandeurs d'emploi à visiter l'entreprise, comprendre l'activité de l'entreprise et le travail de l'artiste. Et ensuite, il y a un deuxième moment fort où ces personnes-là peuvent participer à un atelier de pratique artistique dans l'entreprise.
Ça veut dire que ça peut susciter des vocations à la fois pour devenir artiste, l'artiste, mais aussi à la fois pour intégrer un poste dans l'entreprise qui travaille avec l'artiste.
C'est l'objectif, ou un des objectifs en tout cas. Les entreprises qui participent au projet, généralement ce qui les intéresse, c'est bien sûr une visibilité, communiquer sur le projet, mais aussi travailler sur des problématiques qu'elles rencontrent, comme le problème de recrutement ou l'image de sa marque employeur. Et à travers ce type d'action, elles se montrent d'une autre façon, elles partagent ses savoir-faire avec un public différent, sous un autre angle, sous une forme artistique.
Il peut y avoir une notion également d'économie circulaire, de réemploi, parce que quand on parle d'entreprise, on parle évidemment de matières premières.
Oui, donc les matières premières peuvent être utilisées par l'entreprise, parfois aussi les rebuts de l'entreprise. Donc il y a un aspect écologique, développement durable qui est ancré dans le projet et sur lequel on sera très attentif.
Il y a déjà eu un premier événement de ce type qui a eu lieu à Strasbourg. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement.
Oui, à Strasbourg, il y a déjà eu deux éditions, en 2019 et en 2018 et en 2021, et ça a extrêmement bien fonctionné. Il y avait à chaque édition 300 000 spectateurs qui sont venus. C'était foisonnant en termes d'action, de médiation, de visiteurs. Ça a été très, 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 très apprécié par les Strasbourgeois, mais aussi des touristes qui sont venus des régions aux alentours. L'événement a même gagné le prix de la nuit de l'événementiel en prix national pour le meilleur événement de l'année.
Ça pourrait devenir à l'avenir une biennale ici à Lyon?
Oui, c'est l'idéal. Donc là, on travaille sur la première édition 2024-2025, mais à terme, on imagine que ça se répète tous les deux ans, donc sous forme biennale.
Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour participer? Pour un chef d'entreprise qui nous écoute, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire?
Les entreprises nous passent un coup de fil ou s'informent déjà sur qu'est-ce que c'est. Donc il y a un site internet qui est extrêmement bien fourni, il y a plein de vidéos en ligne, il y a un canal YouTube, il y a les réseaux sociaux. Ensuite, on prend rendez-vous, on définit ensemble un projet avec l'entreprise et on est là pour accompagner l'entreprise de A à Z. Donc on ne les laisse pas seuls puisque c'est un projet important mais aussi différent. Les entreprises généralement n'ont pas l'habitude de travailler avec les artistes. On va écrire ensemble un cahier des charges pour définir les besoins, les moyens mis en œuvre et ensuite on présélectionne trois artistes qu'on peut présenter à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui va faire son choix final sur l'artiste retenu. Et pendant toute la phase de création, on est aussi aux côtés de l'entreprise pour accompagner avec des aspects plus techniques dans la rédaction des contrats de droits d'auteur, mais aussi la phase de production, on veille à ce que l'œuvre finale soit conforme au cahier des charges initial.
Ah, parce que le cachet, il y a aussi un côté financier. Comment on finance ce genre d'opération quand on est chef d'entreprise?
La commande de l'œuvre est prise en charge par l'entreprise. On a la chance d'avoir un dispositif fiscal très avantageux puisque l'achat d'une œuvre à un artiste vivant est défiscalisable à 100% sur 5 ans, à part égale. Donc on divise, donc chaque année, il y a sur 5 ans, 20% du prix d'achat qui sont défiscalisables.
Et l'œuvre reste ensuite propriété de l'entreprise?
Exactement. L'entreprise est ensuite propriétaire de l'œuvre et va pleinement profiter de cette œuvre. Il y a un vrai storytelling derrière. L'œuvre a écrit une histoire, un bout de l'histoire de l'entreprise. Et souvent, ces œuvres-là deviennent un vrai totem, un symbole pour l'entreprise. Ils peuvent être utilisées dans la communication, dans le logo et plein d'autres choses.
Pour tout renseignement et pour devenir mécène, rendez-vous sur industriemagnifique.com. L'Agence régionale de santé a recensé 25 cas de rougeole dans le Rhône et plus particulièrement dans les communes de l'Est lyonnais depuis le début de l'année. Des bébés, des enfants et des adultes. Un courrier a été adressé aux professionnels de l'éducation nationale et aux parents d'élèves. Les parents qui ont été invités à consulter un médecin si la vaccination de leur enfant est incomplète. La vaccination comprend en effet deux doses. Elle est obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Patrick Verbruggen, cofondateur de Triangle Génération Humanitaire, nous a quittés. Il avait cofondé en 1994 cette ONG qui intervient aujourd'hui dans 11 pays. Patrick Verbruggen est décédé ce dimanche à l'âge de 60 ans des suites d'une longue maladie. Première mission en 1994 au Rwanda après le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, Triangle intervient dans 11 pays, compte 800 salariés avec un budget de près de 30 millions d'euros. Après l'annonce de la programmation la semaine dernière, le festival des Nuits de Fourvière ouvre sa billetterie ce mercredi à midi. Mathieu Chédid, Zao de Sagazan, MC Solar, Patti Smith, Véronique Sanson ou Simple Minds se figurent à l'affiche de l'édition 2024, mais aussi Edouard Baird, Joy Star ou encore Mourad Merzouki pour le théâtre et la danse. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition. Excellente journée.